Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons avoir la joie aujourd'hui de recevoir, du moins par communication téléphonique, un auteur que nous apprécions beaucoup ici à Radio Occitanie. Il s'agit de Jean-Luc Pouliquen. Jean-Luc Pouliquen, bonjour.
Bonjour, Christian.
Très heureux d'être avec vous pour une heure à Radio Occitanie et pour ce très beau livre que vous avez publié, Les 3B, Gaston Bachelard, Nicolas Berdiaïev, Martin Buter à Pontigny. Si vous le permettez, Jean-Luc Pouliquen, avant d'entamer notre entretien sur ce livre, je voudrais faire deux petites présentations. La première, c'est sur quelqu'un que vous connaissez, car je crois que vous connaissez Jacques Barthès.
Oui, bien sûr, oui.
Alors, Jacques Barthès, c'est un chanteur, il est de la région, il est né à Montpellier, hein, et il habite Sète, il a fait un petit tour à Paris. Et Jacques Barthès, qui est maintenant, donc, je viens de le dire, un habitant de cette belle ville de Sète, a eu cette année le prix de la chanson poétique de l'Académie des Jeux Floraux. Voilà. Alors nous aurons l'occasion de parler plus abondamment de Jacques Barthès, mais je voulais, en introduction de cette émission, vous faire entendre justement chanter de Jacques Barthès, qui a eu ce prix de l'Académie, de la chanson poétique de l'Académie des Jeux Floraux.
L'harmonie retrouvée, le silence et la paix. Chanter pour convier l'espérance des roses et pour remercier d'être ici pour chanter. Chanter pour conjurer la nuit privée d'étoiles qui tend sa voile noire au vent de l'horizon. Chanter pour avancer à grands pas sous la toile du ciel vers l'infini, théâtre des saisons. Je mêlerai mon chant à celui des fontaines, au flux et au reflux des vagues aux ruisseaux, murmurant doucement pour apaiser la peine dans le frémissement paisible des roseaux. Je mêlerai mon chant au parfum de la terre, à l'écorce des arbres, au chant des coquelicots, au doux scintillement du soleil sur la mer, au vol des goélands dans l'ombre des bateaux. Chantez pour mon amour, toi qui m'as mis au monde, la chanson des amants, heureux ou malheureux. La chanson qui nous lie à la source profonde où viennent se baigner les couples amoureux. Chantez pour l'amitié qui se donne en silence au hasard des rencontres. Chantez pour retrouver dans une main tendue un peu de cette enfance qui nous donne la force et le désir d'aimer. Je mêlerai mon chant au tumulte des foules, au tourbillon du temps, aux villes en chantier, parti pris d'être ici, au milieu de la houle, voyageur immobile, au cœur de la cité. Je mêlerai mon chant à celui du poète, dont les mots nous enchantent et qui nous font vibrer. Chanson d'amour toujours, qui jamais ne s'arrête, qui nous dit à l'oreille un air de liberté. Chantez pour ajouter à la beauté des choses l'harmonie retrouvée, le silence et la paix. Chantez pour convier l'espérance des roses et pour remercier d'être ici pour chanter.
chantée de Jacques Bardès. Une dernière annonce avant de rejoindre notre ami Jean-Luc Pouliquen. Ce sont des textes qui ont été rassemblés par Irina Dmitrychine. C'est l'anthologie du Donbass, qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Je voulais signaler quand même ce livre qui est le portrait littéraire d'une région, cette région qui est aujourd'hui ravagée par la guerre. Donc ce livre, l'anthologie du Donbass, réunit des écrivains qui sont originaires bien sûr de l'est de l'Ukraine, et ces écrivains ont dû quitter ce Donbass, de moins nous l'espérons temporairement, mais cette région est toujours présente dans leur cœur et dans leur esprit. Donc cette anthologie réunit des écrivains d'âge, de style très différents, et ces auteurs et ces œuvres en poésie, mais aussi en prose, hein, traduisent la souffrance de ce peuple, mais aussi l'espoir de nos contemporains à l'autre bout de cette Europe. Voilà, je voulais vous signaler ce livre, Anthologie du Donbass, aux éditions L'Harmattan. Très rapidement, juste un texte d'une femme poète, Irina Tsilsky, qui est née en 1982. Pas sur la guerre, pas sur la guerre, s'il vous plaît, me prie de nouveau l'organisateur. Alors sur quoi ? Demandai-je le sourcil levé. Sur l'amour, la guerre, on l'a en horreur. De l'amour, bon, soit, de l'amour. Mon amour, tu sais, je tourne en rond, et tandis que le monde s'effondre alentour, moi au contraire, je suis à fond. Je sais nettoyer l'aspirateur, entrer la nuit dans un lit vide, mais, tu sais, j'ai fait un rêve ce jour, une ville déserte et un cri comme un tir. Toi, caressant les sillons des tranchées, moi vivant dans un monde parallèle, des rêves chamarrés, comme les albums, ta chaîne, nous reviendrons dans l'avenir en personne nouvelle. Oui, à Kiev, on en a assez de la guerre, de Slovansk ou de Pesky, je ne parle plus guère, la bourre du peuplier attaque les airs, s'envole et se colle aux rations militaires. Encore de l'amour, tout est amour sur la terre. Cette pluie chaude, ces chemins noircis, joues humides, nuages, camp militaire, avec des traces des pas, les tiens y compris. Voilà. Anthologie du Donbass aux éditions L'Harmattan, présence ukrainienne. Le livre vous coûtera 19 euros. Alors Jean-Luc Pouliquen, nous allons parler d'un livre d'une grande originalité en définitive. Jean-Luc Pouliquen, s'il est à la fois poète, écrivain, critique littéraire, essayiste, et il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. Nous allons citer Mémoire Santin, ce sont les poésies.
Oui.
Et il y avait une préface de François Dagonier, dont vous parlez d'ailleurs dans ce dernier livre, hein,
oui,
François,
oui,
Dagonier.
C'était un ami, un disciple de Gaston Bachelard.
Oui.
Il a prolongé son œuvre, oui. Et j'ai été heureux qu'il préface mes poésies, puisqu'on était dans la filiation avec Bachelard, qui est un penseur et un poète qui m'est très cher.
Voilà, nous allons en parler tout de suite. Vos dernières publications, c'est... D'abord, vous avez fait une édition bilingue, français-italien.
Oui.
Et alors, à ce propos, j'ai un salut à vous transmettre. J'ai pris le café il y a deux jours avec Andrea Genovese.
Genovese, oui.
Voilà, qui a dit, ah, Jean-Luc Pouliquen, c'est quelqu'un de formidable.
Oui, c'est voilà. Gentil à lui, il dit aussi, est quelqu'un de formidable.
Voilà, il va bien, il était à Toulouse, il écrit actuellement sur Toulouse, il veut faire un roman sur qui se passera au XIIIe siècle à Toulouse.
Ah, très bien.
Voilà, en tout cas, il m'a fait vraiment vos éloges, et ça fait plaisir.
C'est gentil.
Alors, votre dernier livre, est-ce que c'est celui que vous avez fait avec une postface du prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez.
Ah oui, ça remonte à une dizaine d'années, oui. Le poète et le diplomate. J'ai eu la chance de rencontrer Wernfried Köpfler, qui est un ancien ambassadeur d'Autriche, qui vit à hier en partie, et qui est passionné de littérature. Il est écrivain lui-même, et on a eu envie de montrer la relation qu'il pouvait y avoir entre la poésie et la diplomatie, d'autant qu'hier il y en a un illustre représentant qui est Saint John Perse, qui s'est installé sur la presqu'île de Gien en 56 et qui a à la fois une carrière très brillante de diplomate, puisqu'il a dirigé la diplomatie française dans l'entre-deux-guerres, et puis c'est un très grand poète qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1960.
Alors Saint John Perse, quand on parle de Saint John Perse, j'ai deux souvenirs qui arrivent. Le premier, c'est d'un poète ici de Toulouse qui a été très connu, qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Claude Saguet.
Oui.
Et qui était un fanat de Saint John Perse. Et moi, j'avais bien connu Jean Rousselot, et Jean Rousselot m'avait dit, moi que je suis arrivé en poésie, il y avait deux grands axes. Il y avait René Char, et il y avait Saint John Perse. Voilà. Alors c'était des parallèles, bien sûr, qui ne se rejoignaient pas. Mais moi, là-dedans, aucun des axes ne pouvait me convenir. Et donc, il a fallu que je trouve quand même quelque chose qui était à la fois très, très éloigné des deux. Et donc, ça m'est resté, cette façon de voir Saint John Perse comme un poète quasiment un petit peu... D'accès difficile.
C'était voilà. Deux grands solitaires, Char et... Mais il y a peut-être un point commun entre les deux.
Oui.
C'est le philosophe présocratique Empédocle.
Ah voilà, voilà.
Parce que et justement... Oui. Enfin, on en reparlera peut-être.
On va en parler tout de suite, mais oui.
Voilà. Oui, parce que Saint John Perse est lié aux éléments.
Oui.
Et il a travaillé justement sur Empédocle. Et René Char, avec quelques amis, avait créé une revue dans les années 50 qui s'appelait Empédocle aussi, et qui le reliait justement à cette Grèce ancienne et à cette vision cosmique du monde.
Alors Jean-Luc Pouliquen, vous nous donnez à lire un livre qui est quand même assez surprenant. Il s'appelle Les 3B. Donc Les 3B, c'est Gaston Bachelard,
c'est ça, oui.
Nicolas Berdiaïef et Martin Buber. Alors, à Pontigny. Pontigny, c'est le lieu où avaient lieu des conférences, les décades de Pontigny. C'était des conférences dans l'ancienne abbaye cistercienne de Pompéi.
C'est-à-dire, c'était dans les locaux où vivaient les moines. Quoi, parce que après 1905, il y a eu la séparation de l'Église et l'État. Donc l'abbaye elle-même est restée religieuse, mais les locaux où vivaient les moines ont été laïcisés, si je puis dire, et donc Paul Desjardins les a rachetés pour faire ces fameuses décades qui avaient lieu au mois d'août, donc 10 jours, avec un thème littéraire, un thème social et un thème philosophique. Et c'était 10 jours où les rencontres proprement dites de réflexion se tenaient l'après-midi pendant 2 heures. Le reste du temps, on se promenait dans la campagne, on allait dans la bibliothèque, on prenait le thé. Donc ça, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui et qui était très rare, qui permettait, dans un rythme très lent, de faire amplement connaissance, d'échanger hors de toute contrainte. Et je fais le parallèle avec ce qui a suivi... C'est Cerisy.
Oui.
Là, ce sont des colloques assez lourds avec des programmes très définis.
Où ça redevient très universitaire.
Voilà. Alors que là, justement, on faisait échanger les penseurs, les universitaires, sur des domaines qui n'étaient pas habituellement les leurs. On les faisait sortir du cadre, ce qui pouvait révéler d'autres facettes de leur personnalité et de leurs intérêts.
Bien sûr. Alors, ces décades ont été organisées par Paul Desjardins et sa femme de 1910 à 1939.
C'est ça, avec un arrêt pendant la guerre de 14.
Bien sûr, voilà. Alors, les 3B, Gaston Bachelard, c'est celui qui est évidemment quand même le plus connu. Il n'y a pas un poète qui n'ait pas lu la psychanalyse du feu de Gaston Bachelard, je ne crois pas. Vous-même, vous avez travaillé sur Gaston Bachelard, hein, puisque vous avez...
Oui, j'ai écrit un livre sur sa relation avec les poètes.
Oui, ou le rêve des origines.
C'est ça, voilà.
Ouais. Relation donc entretenue avec les poètes, et d'ailleurs, dans tout ce livre, on revient sur cette relation de Gaston Bachelard avec l'émotion, avec l'imagination, et avec, en définitive, le génie poétique. Alors, les deux autres sont moins connus, Nicolas Berdiaïev et Martin Buber.
Oui, alors Nicolas Berdiaïev, c'est un penseur russe. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était avant la guerre en Ukraine que j'ai écrit ce livre.
Oui.
Et Nicolas Berdiaïev est né à Kiev.
Kiev, oui.
Mais il était russe jusqu'au bout des doigts, quoi. Hein. C'était... Oui. Se considère comme un russe. Et Martin Buber, qui est un juif autrichien, a passé son enfance à Lev. Enfin, ça s'appelait Landberg à l'époque, et c'est la ville de Lev qui se trouve en Ukraine, mais qui à l'époque était dans l'Empire austro-hongrois. Ce qui montre que ce territoire ukrainien est fait de différentes composantes et qui explique un peu tous les conflits latents et maintenant ouverts qui s'y passent, quoi. Hein. Alors, Nicolas Berdiaïev, c'est un chrétien orthodoxe, mais révolutionnaire, qui a participé à la révolution d'octobre, mais qui était tellement épris de liberté que ça en a dérangé Lénine, qui en 1920 a envoyé 600 intellectuels, les a expulsés sur ce qu'on appelait le bateau des philosophes. Et en fait, c'était l'alternative à l'exécution pure et simple, quoi. Donc il est venu, de 20 à 22, il a vécu à Berlin, et ensuite il s'est installé à Clamart, où il a vécu jusqu'à la fin de sa vie, en 48. Donc c'est un penseur qui a traversé, qui vient de l'Orient de la Russie, jusqu'à l'Europe, comme Martin Buber aussi, qui se voulait un passeur, comme Berdiaïev, de l'Orient vers l'Occident.
Alors tous les deux parlaient très bien le français.
Voilà,
Nicolas Berdiaïev, il était d'ailleurs par sa mère, il descendait un peu des ducs de Choiseul, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça, oui. Oui.
Et bien entendu, il avait une culture française. Il n'y a pas eu de difficulté d'adaptation quand il est allé à Clamart, quoi.
Non. Alors il faut dire que tous les entretiens qui ont eu lieu à Pontigny étaient en français.
Oui.
Donc Buber parlait aussi le français.
Ouais.
Et toute l'Europe européenne, toute l'intelligentsia européenne se retrouvait à Pontigny. Alors le noyau principal, c'était la NRF, avec Jean Schlumberger, André Gide, Paul Valéry est venu, et toute la jeune génération après, enfin qui pour nous sont des anciens, mais les Sartre, les Malraux, les Vladimir Jankélévitch, étaient des jeunes à l'époque. Et il se retrouvait à Pontigny. Donc, Buber, Bachelard, Berdiaïev faisaient figure des aînés. Bon, Paul Desjardins, lui, était né en 1859. Pour dire que là, on a affaire à une génération qui nous est lointaine, mais qui nous est proche par la pensée, quoi. Lointaine, parce que quand on pense que Desjardins, 59, c'était sous le Second Empire. Bachelard est né au début de la Troisième République, Berdiaïev sous les Tsars, Buber dans l'Empire austro-hongrois, et finalement, venant de si loin, ils ont un message universel à nous transmettre, et un message qui a encore une actualité.
Donc, des participants de Pontigny, vous avez pris ces trois-là. Bon, Bachelard, on comprend tout de suite, parce que vous avez travaillé sur Bachelard. Et les autres, c'est peut-être par la proximité que vous avez trouvée avec l'œuvre de Bachelard ou le rapprochement.
C'est ça. Oui. Ben, j'avais été invité pour le centenaire de Pontigny à parler de la venue de Bachelard à Pontigny. Bachelard est venu en 1929. En 1936 et en 1939. Et par extension, je me suis intéressé à ceux avec qui il avait pu être en relation, et notamment avec Martin Buber. Quant à Berdiev, Bachelard et Berdiev se sont pas rencontrés directement, mais il y a un parallèle dans leur pensée, notamment par le rôle qu'ils attribuent à l'imagination. L'imagination,
oui. Voilà. Qui fait l'objet d'ailleurs de la deuxième partie de votre livre. Hein. Une petite anecdote que j'ai trouvée intéressante pour nous, c'est dans les participants prestigieux hein, qu'il y avait à Pontigny, il y avait Léon Brunswick, mais il y avait aussi Vladimir Yankelevitch. Alors, Vladimir Yankelevitch, il nous est précieux parce qu'il a habité Toulouse pendant la guerre. Hein, il était réfugié ici, à l'Institut catholique, il était. Vladimir Yankelevitch, c'est l'Institut catholique qui le cachait. Et alors, vous racontez là qu'à Pontigny, il joue au piano.
Oui, oui.
Il joue au piano, voilà. Donc on voit quand même l'atmosphère, effectivement, assez différente des colloques de Cerisy actuels. Hein.
Oui. Et c'était un pianiste très brillant, hein, m'a dit Suzanne Bachelard, qui disait qu'après l'avoir écouté jouer du piano, plus personne n'osait rivaliser avec lui, quoi, tellement il était doué, quoi. Donc à la fois, on voit Bachelard, c'était la poésie et la philosophie, Yankelevitch, c'est la musique et la philosophie. Enfin, ce sont des personnalités qui débordent d'une simple expertise dans un domaine, quoi, et qui sont ouverts à l'art. Qui ont cette sensibilité musicale, poétique, artistique, qui faisait la densité de ces rencontres. Quoi. Parce qu'à Cerisy, j'ai regardé le programme de cette année, il y a 22 colloques.
Oui, oui, oui.
Donc ça devient une usine. Oui, une usine.
C'est une usine à fabriquer des textes universitaires, quoi.
Voilà, voilà. Alors que là, c'était tout à fait différent.
Alors, on va revenir sur Bachelard et Empédocle. Donc, il y a les quatre éléments, hein, le feu, l'eau, la terre, l'air. Et comme Romain Rolland, Gaston Bachelard considère le surhomme de Nietzsche dans un sens positif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça?
Mais c'est-à-dire que l'être humain est appelé à dépasser la vie ordinaire, mais pas dans une volonté de puissance, de conquête, d'écrasement, mais par une ouverture justement aux arts, à la création, qui va l'élever, qui va lui donner une plénitude d'être. Et c'est le surhomme est envisagé de cette manière, quoi. Donc ça n'a rien de totalitaire, mais c'est au contraire un appel à se dépasser ou à réaliser les talents qu'on a en soi, qui sont à l'état virtuel. Mais si on prend conscience de ces talents, on va aller vers la peinture, on va aller vers l'écriture, on va aller vers la musique. C'est dans ce sens-là que Bachelard voit le surhomme, quoi.
Ouais. Et ça, il faut le rappeler, parce qu'effectivement, il y a ce contresens qui est très dérangeant, hein. Sur Nietzsche. Voilà. Donc j'ai tenu à ce que vous le rappeliez un peu ça. Et Romain Rolland, vous en parlez dans votre livre, il disait ça aussi. Il avait bien retenu ça.
Alors, il y a quelques années, j'étais allé à Weimar, et à Weimar, il y a les archives Nietzsche. Oui. Et là, j'avais vu une lettre de Romain Rolland qui se désolidarisait tout à fait de la récupération que le national-socialisme faisait de Nietzsche, notamment à travers sa sœur, qui avait fait allégeance à Hitler, et lui, c'est pas comme ça qu'il voyait Nietzsche, quoi.
Bien sûr. Voilà. Bon, c'est dit. nous allons revenir à Martin Buber aussi, puisque Gaston Bachelard a rédigé la préface de « Je et tu », hein, en allemand, je ne sais pas le prononcer, dites-le vous.
« Ich und du ».«
Ich und du », donc de Martin Buber. C'est important qu'il ait
réalisé c'est assez paradoxal, parce que avec le recul, moi je m'étais intéressé à Emmanuel Mounier, Berdiev est en amont d'Emmanuel Mounier, dans l'introduction du personnalisme. Et puis, lisant Ishundu, enfin en français, je l'ai tué, la préface, je me suis aperçu que finalement, celui qui est à l'origine du personnalisme, c'est Martin Buber. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas la famille personnaliste française qui va l'introduire en France, c'est Gaston Bachelard qui est censé être un épistémologue, un rationaliste, et finalement c'est grâce à lui que Martin Buber va être connu en France, quoi, va faire son entrée en force dans la philosophie. Alors là, ça révèle une autre facette de Gaston Bachelard, qui est un humaniste, qui est d'une certaine manière un personnaliste aussi, et il y a trois Bachelard, mais on connaît que les deux premiers, c'est-à-dire le philosophe des sciences, le philosophe de la matière, de l'imagination, mais il y a aussi celui qui a préfacé la Bible de Chagall, oui, et qui a fait l'introduction de préfacer Buber pour sa traduction en français, quoi. Alors, je pourrais peut-être vous lire un extrait de cette préface.
Merci.
Et c'est très poétique, quoi. Voilà. Il faut avoir rencontré Martin Buber pour comprendre le temps d'un regard, la philosophie de la rencontre, cette synthèse de l'événement et de l'éternité. Alors on sait, d'un seul coup, que les convictions sont des flammes, que la sympathie est la connaissance directe des personnes. Un être existe par le monde qui vous est inconnu, et soudain, en une seule rencontre, avant de le connaître, vous le reconnaissez. Dans la nuit, un dialogue s'engage, un dialogue qui, par un certain ton, engage à fond les personnes. « C'est toi, Michel ?» Et la voix répond. « C'est toi, Jeanne ?» Aucun n'a besoin de répondre. « Oui, c'est moi. » Car le moi interrogé, s'il transcendait l'interrogation, s'il dérogeait à la grâce infinie de la rencontre, tomberait dans le monologue ou dans la confession, dans ce qui vante ou dans ce qui regrette, dans le plat récit des désirs et des peines. Il dirait ce qu'il était avant de dire ce qu'il est. Il dirait ce qu'il est avant de dire ce que par la rencontre il est devenu. L'instant de la personne humaine en serait tout alangui, tout amolli, tout amorti, privé entièrement de ce vecteur d'avenir que la sympathie vient de lancer. Toute la philosophie de la personne, d'après Martin Buber, doit tenir dans cette interrogation mutuelle. Cette philosophie donne aux verbes une tonalité particulière qui est faite de confiance et d'étonnement. Cette philosophie multiplie, comme dans un miroir à mille facettes, cette nuance délicieuse et souvent insaisissable qui joue dans l'ambiguïté de l'interrogation et de l'exclamation. Nous sentons bien qu'il nous faudrait un signe moyen entre le point d'interrogation et le point d'exclamation. Nous sentons bien que du point d'interrogation au point d'exclamation, il y a place pour toute une psychologie qui tonaliserait toutes les paroles, qui saurait interpréter les silences et les timbres, les vivacités et les lenteurs, toutes les résonances et tous les arpèges de la sympathie. Voilà, j'arrête là, oui, je pourrais continuer.
Oui, c'est une prose quand même qui est magnifique.
Et oui, c'est là, on voit que il appartient à cette catégorie de philosophe qui est aussi poète. Oui, et Empédocle était aussi un poète. Oui. Nietzsche était aussi un poète.
Poète, tout à fait, tout à fait. Alors, Martin Buber, c'est un personnage quand même assez remarquable. Moi, j'en ai entendu parler une fois, c'était par Claude de Vigée.
Oui.
Et c'était en Israël, justement, parce que Martin Buber avait été professeur en Israël.
Oui, à l'université hébraïque de Jérusalem.
Jérusalem, voilà. Et là où était Claude de Vigée, moi j'ai eu le plaisir d'y être invité également dans cette université, ainsi que celle de Beersheba. Et donc, il a une vie quand même assez extraordinaire, Martin Buber, puisqu'il est né en 1878 à Vienne.
C'est ça, oui.
Et il s'est installé à Eppenheim, en Allemagne, en 1916.
Ça, oui,
hein. Son épouse était écrivain et publiait sous un nom d'homme,
oui, oui.
George Monk.
C'est ça, oui. Et elle a eu du succès, c'est une romance. Elle n'est pas très connue, mais il y aurait tout un travail à faire sur ses romans.
Lui enseignait à Francfort sur le Main, et puis évidemment, quand arrivent les persécutions nazies,
il part en Palestine
en 1938. Voilà, ça fait partie quand même des gens qui ont immigré parmi des pionniers là, et les Ben-Gourion, etc.
Qui vont rejoindre. C'est ça qu'ils connaissaient d'ailleurs. Oui.
Voilà, Ben-Gourion. Voilà, voilà. Et on dit que sa maison en Allemagne donc sera sauvée de la démolition.
C'est ça,
et va abriter le Conseil international des chrétiens et des juifs, le Conseil national qui a été transféré de Londres pour être hébergé dans cette maison. C'est quand même très symbolique.
Et oui, parce que c'est à son image, quoi. C'est un homme du dialogue, du dialogue entre les religions, entre autres. Et ça contribue à son rayonnement. Ce que j'essaye de développer dans le livre, c'est de montrer qu'après le passage de ces gens d'exception, les lieux où ils ont vécu continuent à vivre dans leur esprit, quoi. Alors à Clamart, où a vécu Berdiev, il y a une petite église orthodoxe au rez-de-chaussée maintenant, et son cabinet de travail a été conservé avec ses livres, avec... Et ça a été une paroisse orthodoxe très active, où les artistes étaient accueillis, comme du vivant de Berdiev, chez lui, il y avait tous les membres de toutes les religions qui venaient, des intellectuels, des artistes, des philosophes, des musiciens, des critiques littéraires. C'était un véritable foyer de culture, évidemment ancré au départ dans la culture russe, mais une culture ouverte.
Martin Buber, lui, va sympathiser avec Gaston Bachelard en 1929, lors de l'une des décades,
voilà,
à Pontigny, lequel Martin Buber a été élevé par ses grands-parents en Ukraine, vous l'avez rappelé, tu crois.
Voilà, à l'époque c'était l'Empire austro-hongrois, mais dans l'esprit des Lumières, l'esprit juif des Lumières, donc il a été
l'esprit de la Haskalah.
Voilà, c'est ça.
C'est Monique Luis-Cohen qui m'avait expliqué ce que c'était ça. L'esprit de la Haskalah, c'était quand même très important, parce que ça explique un peu toute sa vision du monde aussi.
C'est ça, oui. Et il va s'intéresser à la collecte des récits hassidiques.
Voilà, judaïsme hassidique.
Voilà. Comme il va l'occuper de nombreuses années.
Oui. Eti Elisoum, m'avait expliqué Monique Luis-Cohen, Eti Elisoum était de cette culture aussi. Du judaïsme hassidique. Et on ne pouvait comprendre véritablement sa pensée que au regard de ça, en ayant cette référence. Et peut-être chez Martin Buber aussi, il faut voir aussi sous cet angle-là. Puisqu'il a fondé un mouvement, Brit Shalom, les Juifs.
Mouvement de dialogue pour que les Juifs et les Arabes soit à égalité en Palestine. Voilà. Malheureusement, le mouvement a été interdit. Et puis,
c'est très difficile maintenant.
Alors, ce qui est intéressant dans la collecte des récits hassidiques, je pensais à faire un parallèle, par exemple, avec un auteur occitan qui va essayer de collecter tous les contes occitans qui étaient dans le pays profond, avec les légendes. Et là, il y a une espèce de quête identitaire ouverte qui plonge dans le plus profond d'un peuple. Alors je vais vous lire ce que disait Martin Buber, là, qui est quatrième de couverture de son livre Les Récits Hassidiques. La légende des Hassidim a grandi dans d'étroites ruelles et de sombres réduits, passant de lèvres malhabiles dans des oreilles anxieusement attentives. C'est en bégayant qu'elle est née et s'est propagée de génération en génération. Des livres populaires, des cahiers et des feuilles volantes me l'ont transmise. Mais je l'ai entendu aussi de lèvres vivantes, de ces lèvres qui en avaient elles-mêmes reçu le bégayant message. Je porte en moi le sang et l'esprit de ceux qui l'ont créée, et c'est par l'esprit et le sang qu'elle est née à nouveau en moi. Je ne suis qu'un maillon dans la chaîne des narrateurs, un anneau entre les anneaux. Je répète à mon tour la vieille histoire, et si elle sonne neuf, c'est que le neuf était en elle quand elle fut dite la première fois. C'est très poétique aussi, c'est un point.
Absolument. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, à Nicolas Berdaïev. Vous parliez tout à l'heure d'Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, il est bien sûr indissociable de la revue Esprit.
C'est ça, oui.
Et je crois que vous avez travaillé, vous, à la revue Esprit, vous avez participé.
Oui, oui, ben, quand j'étais sur Paris, de 76 à 78, j'ai participé. Il y avait une rencontre qui s'appelait Le Journal à plusieurs voix, qui permettait un peu une entrée dans la revue pour ceux qui arrivaient de l'extérieur. On y traitait de l'actualité politique, culturelle. Et c'est comme ça que j'ai pu voir ce qu'était la revue, quelles étaient ses préoccupations de l'époque, et qui étaient bien éloignées de celles de Mounier.
Oui, oui. Oui. Alors, à cette époque-là, il y avait Jacques Maritain, qui a été... l'invité de Nicolas Berdaïev.
Oui, oui. Et réciproquement, parce que Maritain avait les mardis à Meudon.
Ah oui.
Et Berdaïev habitait Clamart, qui est une commune voisine. Et il se rendait chez Maritain. Et Maritain se rendait chez Berdaïev, qui animait une revue en russe aussi, et il l'a invité à participer.
Cool.
Et je crois que Maritain a un lien avec Toulouse aussi.
Oui, Jacques Maritain, oui, a été également, oui, oui. Il a séjourné assez longuement aussi à Toulouse.
À la fin de sa vie, je crois qu'il était...
Oui, oui. Alors toujours également, il a été reçu par l'Institut universitaire catholique.
Ici. Ah oui.
Voilà. Jacques Maritain, il a laissé une trace là. Et donc Berdaïev, la femme de Maritain était russe.
Donc Raïssa Maritain.
Oui, ça faciliter les contacts avec Nicolas Berdaïev.
C'est ça, oui.
Oui,
oui. Oui. Mais Berdaïev est un peu une figure tutélaire de la revue Esprit.
Oui.
Mais finalement, ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est qu'à partir de 1947, juste à la fin de sa vie, il voit que la revue Esprit a pris une option plus politique que spirituelle. Et il dit « je ne veux plus y participer ».
Ah oui.
Et ça, moi, je l'ai retrouvé, alors, peut-être plus de manière plus accentuée quand j'y suis allé en 76, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup plus de Cornelius Castoriadis, qui était un des penseurs de la gauche non communiste, une gauche un peu libertaire, qui parlait d'auto-institution de la société, et il y avait d'autogestion. Et il n'y avait plus vraiment de référence à la spiritualité, quoi. Alors, des penseurs comme même Mounier n'avaient plus place dans l'organe qu'ils avaient créé, quoi. Donc, pour moi, ça a été un peu frustrant, quoi, parce que j'étais allé... Parce que j'ai connu, vous l'avez connu aussi certainement, le poète Edmond Humeau.
Oui, certes.
Humeau avait participé au début de la revue Esprit, aux côtés d'Emmanuel Mounier, et il emportait vraiment ce rayonnement, cet amour de l'autre, cette ouverture. Je l'ai connu, il avait plus de 80 ans, mais il était d'une jeunesse d'esprit, d'une générosité, d'un accueil, et tout ce que... Il y avait aussi quelqu'un que je n'ai pas connu, mais j'ai connu sa fille, Niké d'Astorg. C'est la fille de Bertrand d'Astorg, qui était un des piliers de la revue Esprit. Et c'est à Toulouse qu'il avait rencontré Emmanuel Mounier. Bon, et alors, je me rappelle, j'en parlais avec Edmond Humeau, et c'était quelque chose de chaleureux. Et je l'ai connu après, mais c'était un contraste total avec ce que j'ai connu de la revue Esprit. Et là, j'ai vu récemment que la NRF, qui était trimestrielle, va devenir semestriel. C'est-à-dire que ces grandes revues, la Pontini, c'était le début, la NRF, ça a été créé en 1909, je crois. Ces revues, bon, plus d'un siècle après, n'ont plus rien à dire, quoi. C'est devenu des institutions. Et justement, l'article que j'avais lu au sujet de la NRF posait bien le problème. Quel est, à quoi sert une revue? Et je crois qu'aussi bien Esprit que la NRF, elles ont à un moment une mission. L'une peut-être faire découvrir la littérature, l'autre dénoncer un certain système. Comme disait Mounier, l'humanisme fort de Staline, quoi. D'un côté, le capitalisme à outrance, de l'autre, un régime soviétique oppressant, et il a opposé la personne et la communauté, ce que Berdiaev a théorisé avant lui. C'est-à-dire qu'il y a l'individu de la société bourgeoise, et il y a la personne de la société personnaliste. C'est pas un homme, une entité refermée sur elle-même. C'est une personne qui est liée à une communauté et qui vit le personnalisme communautaire. Donc on s'invente, on se crée en lien avec une communauté qui vous porte et qui vous... Mais bon, ça c'est dans l'idéal, quoi. Hein. Enfin, Mounier était là pour créer cette brèche et porter le personnalisme. Mais la revue Esprit... Alors, c'est la 90 ans. Au bout de 90 ans, ce sont des institutions avec des gens certainement très compétents qui vont faire des belles analyses politiques, philosophiques. Mais il y a plus ce souffle spirituel qui irrigue justement une revue, une pensée, une manière d'être. Et les trois auxquels je me réfère, Berdiaev, Bachelard, Buber, sont animés par une spiritualité, par un souffle qui fait qu'ils sont vraiment des créateurs, qu'ils impriment un mouvement nouveau, un élan nouveau.
Le titre même « Je et tu » veut bien dire que c'est l'attention à l'autre. Et le « Je et tu » qui est différent du « Je et cela ».
Voilà.
Bien que vous en disiez un mot de ça, parce que...
Quand je cela, c'est-à-dire que il y a une objectivation de l'autre, il n'est pas pris en compte pour lui-même, mais ça peut être un sujet politique, ça peut être un consommateur, ça peut être on va l'instrumentaliser quand on est dans le je cela, alors que lorsqu'on est dans le je et le tu, il y a vraiment échange, il y a vraiment dialogue, il y a vraiment réciprocité. Et si on prend cette clé de la réciprocité, elle peut résoudre tous les problèmes d'aujourd'hui. Parce que le féminisme, pourquoi existe le féminisme? Parce que la femme n'est pas considérée par elle-même, c'est un cela.
C'est un cela, voilà, très bien. Oui, oui.
Et puis les minorités ethniques, etc. Enfin, s'il y a vraiment le je et le tu, je crois que tous ces mouvements, tout le monde existe pleinement et ne ressent pas cette aliénation, cette frustration, quoi. Donc je crois que c'est une bonne clé pour résoudre, pour donner la voie, pour résoudre bien des problèmes. Après, il faut les résoudre de manière pratique, ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'il y a toujours la politique qui interfère et qui peut compliquer les choses, quoi.
Alors, vous parliez de Mounier. En 1946, il fait paraître l'introduction aux existentialismes.
Hein. Oui.
Et là, il dresse l'arbre existentialiste. Hein. C'est un arbre qui va de Socrate, stoïcien, et qui finit par Sartre et Blondel.
Voilà. Avec deux branches, si vous voulez. Un existentialisme athée, Heidegger, ouais, qui pousse Sartre. Sartre procède de Heidegger. Et puis un existentialisme chrétien, ou disons croyant, parce que Buber est juif, c'est pas... Mais il y a un existentialisme relié à une spiritualité. Et c'est là où vraiment il intègre la pensée de Martin Buber dans l'arbre personnaliste, quoi. Donc il a fallu du temps, parce que « Je et tu » est paru en Allemagne en 23, est paru en France... en 38, je crois. Donc, et même malgré ça, la revue Esprit en avait rendu compte de Je et tu en français, mais un petit compte rendu. Et là, c'est vraiment en 46 que Buber fait son entrée vraiment dans la scène philosophique française, quoi.
Et donc, Mounier fait référence au Je tu, qui nous pose la situation d'extériorité hein, pour saisir l'autre.
C'est ça, oui.
Mais c'est Sartre qui va s'emparer de ce thème de l'autre, ensuite.
Ben oui, parce que justement ce livre de Mounier a été écrit pour dire attention, l'existentialisme c'est pas seulement Sartre, quoi. Mais peut-être c'est lui qui a fait le plus de publicité, qui a correspondu à un besoin
de l'époque.
De l'époque, oui.
Et après la mort de Mounier, c'est Jean-Marie Domenac qui va se reprocher, lui, de la pensée de Martin Buber. Hein,
voilà.
Préconisait le discours prophétique, c'est-à-dire le discours prophétique, c'est toujours le discours poétique. Hein.
Ah oui, ça marche ensemble, oui.
Oui, le seul qui propose à l'homme un avenir, le seul qui en appelle vraiment à sa liberté. Magnifique.
Et je crois que Bachelard, Berdieff et Buber sont trois prophètes à leur manière, quoi. C'est pour ça qu'on trouve une pertinence à ce qu'ils ont écrit aujourd'hui, quoi. Et peut-être qu'on en a plus besoin qu'à un autre moment où on avait des certitudes idéologiques, marxistes, on pensait que elles allaient tout résoudre, et puis on s'aperçoit qu'il faut aller plus loin, quoi. Il faut rentrer dans une autre couche de l'être et se rattacher à une transcendance pour essayer de se sortir du marasme actuel.
Alors on va s'en sortir aussi par l'imagination. Et c'est la deuxième partie de ce livre, en fait la partie finale de ce livre, Gaston Bachelard, Nicolas Berdaïev et l'imagination. Alors l'imagination chez Bachelard, elle emprunte aussi bien le chemin de la poésie que celui des sciences.
Hein. Tout à fait, oui.
Et ça c'est fondamental, je veux dire, il n'y a pas d'opposition entre l'imagination de la poésie, l'imagination de l'art et l'imagination du scientifique.
C'est-à-dire Bachelard dit une journée fait 24 heures, il y a l'homme diurne et l'homme nocturne. L'homme diurne va faire appel à sa raison, donc c'est tout le versant sur la science. Et l'homme nocturne va commencer par la rêverie et cette imagination va le conduire vers les arts et la création artistique, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est comment Bachelard en est venu à écrire sur les quatre éléments. Parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait « La formation de l'esprit scientifique » et là il essayait de voir quels étaient les obstacles épistémologiques. Qu'est-ce qui comment l'imaginaire, au départ, vient jouer contre la rationalité. Comment une part d'inconscient vient empêcher d'exercer sa raison de manière claire. Alors, il s'est dit, tiens, je vais essayer, en même temps qu'il écrivait ce livre, d'étudier, de faire un livre sur les images poétiques qui résistent à la raison. Et c'était les images concernant le feu. Mais au départ, il voulait montrer comment elle jouait contre la science, comment l'imaginaire du feu était plus fort que la pensée raisonnante. Et puis, finalement, en écrivant ce livre, c'est là où d'ailleurs il y a un chapitre sur le complexe d'Empédocle, c'est-à-dire la fascination pour le feu en même temps que sa répulsion. On sait qu'Empédocle, dans la légende, s'est jeté dans l'Etna. Et finalement, il est séduit à son tour par les images du feu, et parti d'un livre avec une perspective épistémologique, il termine dans une perspective purement poétique, et c'est là où il se dit, ben je vais continuer, mais vraiment pour la poésie. Alors il a fait des livres sur l'eau, sur l'air, sur la terre, mais là dans une perspective résolument poétique, quoi. Donc il y a les deux versants chez Bachelard, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont la même source, parce que pour que la science avance, d'ailleurs, il a écrit un texte qui s'appelle le sur-rationalisme, donc on ne s'en tient pas à la raison toute seule, il faut qu'il y ait une étincelle d'imagination qui la fasse avancer et inventer des concepts nouveaux.
Vous citez Jean Rousselot aussi, sur André Breton, le manifeste surréaliste hein, d'André Breton.
C'est ça, oui.
Le deuxième, second manifeste réaliste. Et vous dites que Breton, il avait, d'après Rousselot, hein, il avait cette idée mystique de la surréalité.
Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est pour faire un parallèle avec Berdiev.
Avec Berdiev, oui, oui, chasser du paradis. Voilà. Il faut le reconquérir par la liberté. C'était ça l'idée de Berdiev, hein, c'est-à-dire une co-création avec Dieu du monde.
C'est ça, et cette co-création ne peut se faire que par l'imagination.
Voilà.
Et c'est le parallèle avec le surréalisme, parce que quel est le sens de cette surréalité? Et si on cherche, c'est finalement un sens religieux, quoi.
Oui, oui.
Parce qu'on dépasse pas le réel pour dépasser le réel, pour atteindre quelque chose qui était inaccessible jusqu'à présent.
Oui, ça correspond à la pensée de Saint Paul Roux déjà, hein, le poète corrige Dieu.
Voilà.
Ce qui avait tant plu aux surréalistes.
C'est ça, hein. Mais il y a le fameux, pour l'anecdote, le fameux banquet Saint Paul Roux, je sais pas si...
Oui.
Vous rappelez de l'histoire, hein, parce que les surréalistes avaient décidé à la closerie des Lilas de rendre hommage à Saint Paul Roux, puis ça s'était terminé par un pugilat.
Oui, c'était assez affreux quand même. Hein.
Ben oui, parce que les surréalistes avaient un côté...
Oui, un côté quand même très... très excessif, quoi. Très,
ben oui.
Un peu l'inverse de ce qu'ils préconisaient aussi.
Ben, c'est ça, voilà.
C'est terrible, ça.
C'est pour ça qu'après, il y a eu l'école de Rochefort qui a voulu réhumaniser le surréalisme, le revégétaliser, lui enlever ce côté un peu cérébral et cassant, quoi, et tranchant.
Oui, du pape breton. Bachelard, vous dites, vous rappelez que Jean-Hippolyte avait dit de lui... C'était de son œuvre, c'était un romantisme de l'intelligence.
Voilà, c'est ça. Hein. Donc Jean-Hippolyte, qui est du sud-ouest, je crois, hein, et qui a dirigé l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui parlait de romantisme de l'intelligence. Berdiev se définit aussi comme
romantique russe.
Romantique russe.
Oui.
Et il y a du romantisme chez Martin Buber, quoi.
Oui, oui. Oui, absolument. Oui, oui.
Donc c'est ça qui les relie aussi.
Oui. Et la célébration de l'acte créateur chez les trois.
Voilà, voilà. Cette place accordée à l'homme. Dieu ne donne pas les choses toutes livrées, empaquetées, il n'y a plus rien à faire. Oui. Au contraire, il y a quelque chose. Et chez Buber, on retrouve ça aussi, oui.
La co-création du monde. Et il y a une influence d'un philosophe dont on parle peu maintenant, c'est Jacob Boehme, ce philosophe cordonnier de la fin de la charnière là, du 7e siècle, hein, 17e.
Voilà, qui a inspiré Berdiev beaucoup, mais dont Bachelard a parlé aussi. Et alors, Bachelard était fils et petit-fils de cordonnier, donc il pouvait se retrouver aussi chez Jacob
Boehme, oui, oui.
Ben c'est là on rentre dans des choses un peu compliquées. La doctrine de Lungrund, je crois que la liberté est incréée. C'est-à-dire la liberté existe avant la création, quoi. Et c'est parce que Berdiev est un philosophe avant tout de la liberté, et c'est ça qu'il a retrouvé chez Jacob Böhm. Mais il faudrait développer et faire des travaux philosophiques plus affinés pour expliquer exactement tout ça, quoi.
Et bon, Jacob Boehme, c'est aussi dans une pensée mystique profonde.
Voilà, voilà. Alors finalement, on retrouve, voyez, vous citez ce mot mystique, il y a un mysticisme chez Berdiev, chez Buber,
chez les surréalistes aussi.
Aussi. Aussi.
Oui.
Donc on arrive à définir un peu quelques mots qui les relient tous les trois, quoi.
Alors pour revenir à Bachelard et à l'expérience scientifique, il explique qu'elle doit se réaliser contre la nature.
C'est ça, oui. Ben oui, c'est... Il faut former son esprit, justement la formation de l'esprit scientifique. Il ne faut pas recevoir tout comme ça, d'une manière donnée, évidente. Il faut créer des outils qui démontrent la réalité et qui l'expliquent, quoi. Mais c'est pas dans la facilité, justement, c'est dans une certaine rigueur de pensée.
Et pour Berdaïev, il n'y a nul acte créateur sans l'imagination. C'est voilà. Pas possible, sans l'imagination, on peut pas créer.
Ben, c'est sûr. Mais on le voit dans une société, enfin, un poète le ressent peut-être plus que d'autres, mais quand une société est en train de bégayer, on étouffe, quoi, on s'asphyxie. Une revue qui dure des années, qui a plus rien à dire, des poèmes qui ne contiennent rien de nouveau, enfin, tout ça, une société qui se répète, qui manque de souffle, qui est complètement instrumentalisée, ou par le pouvoir ou par les marchands, il n'y a plus de place pas pour l'imagination qui jaillit comme ça dans sa spontanéité et dans son désintéressement. Oui,
oui, l'imagination, quelle est la place de l'imagination, on peut se demander maintenant, dans une société qui est une société où le marché dicte sa loi dans tous les domaines. Une économie de marché absolue, que va devenir l'imagination? Si elle prend la forme de la publicité, évidemment, c'est un peu gênant, quoi. Et alors là, que devient ce que recherchait Bachelard, c'est-à-dire lui qui avait mis en évidence la verticalité de l'instant politique?
Poétique,
la verticalité,
oui,
de l'instant poétique, hein, qui a brisé la linéarité du temps en échappant à la détermination sociale. Parce que c'est ça aussi.
C'est tout à fait ça, voilà, oui. Oui, oui. C'est ça la création, quoi. C'est une verticalité qui se défait de tout conditionnement, qu'il soit donc social, politique, marchand. Et voilà.
Nous sommes rattrapés par l'heure.
Ben, merci.
Jean-Luc Péliquin, on rappelle le titre de ce livre, Les 3B, Gaston Bachelard, Nicolas Berdaïev, Martin Buber, à Pontigny. Et c'est aux éditions, donc, enfin, c'est publié par Amazon. Et vous pouvez vous procurer ce livre en écrivant par messagerie, Jean-Luc Pouliquen sans attache, Pouliquen, Pouliquen, @hotmail.com. Vous aurez toutes ces explications sur notre site, lespoètes.site. Un très beau livre à lire, parce que vraiment, c'est un livre qui nous interpelle beaucoup, à la fois sur le plan social, sur le plan politique aussi, hein, de notre devenir de notre société maintenant, et sur le plan poétique. Voilà. Merci Jean-Luc Pouliquen, et à bientôt.
Merci beaucoup Christian, à bientôt.